dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de
Salman Faris.
Je m'appelle Salman Faris, donc c'est mon prénom. Et je suis musicien et compositeur et producteur. J'ai fait ça toute ma vie parce que mon père est musicien. Et donc du coup, j'ai appris à jouer de la flûte traditionnelle turque. Il joue de la flûte traditionnelle turque, du ney. Et j'ai appris à jouer du ney en même temps que j'ai appris à parler. Enfin, voilà, j'ai pas le souvenir d'avoir appris la musique à un moment. Ça a toujours été dans ma vie.
Dans les oreilles de...
Si la musique est présente depuis toujours dans la vie de Salman, il vient de sortir, après avoir mis ses talents de musicien et de producteur au service des autres, de Nekfeu à Alpha One en passant par Stromae, son premier mini-album Neva, 9 titres, 9 pistes qui nous mènent aussi bien en Californie que sur les bords du Bosphore en Turquie. Un disque qui nous a tellement plu qu'on a décidé de faire connaissance avec ce jeune artiste pendant une heure. Nous voilà dans ses oreilles. Et pour ouvrir cette émission, par quelle musique justement souhaites-tu commencer? Un titre, disons, qui prolongerait cette présentation?
Alors je pense que ce serait, si je devais choisir un morceau là, ce serait dans mon EP qui vient de sortir, je mettrais Yıldızlar, le morceau qui s'appelle Yıldızlar, qui veut dire les étoiles. Et voilà, c'est un morceau où je pense qu'on retrouve à la fois mon côté musicien, compositeur et producteur en même temps. Enfin, il y a un bon condensé là-dedans.
Ça traduit bien.
Voilà.
Alors on l'écoute.
Dans les oreilles de
Salman Faris.
Yıldızlar, les étoiles en français, avant-dernier titre de Neva. C'est avec cet extrait de son premier mini-album qu'il a choisi de se présenter à nous. À la fois producteur, multi-instrumentiste et compositeur, Salman Faris revient sur son parcours musical qui, vous allez l'entendre, démarre très très tôt. On en parle dans quelques minutes.
De
d'élégance dans mes écrits. Normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzag entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'un kilomètre pour gagner trois pépettes. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Et pour le petit smicard, y'a de quoi s'alarmer. Les bras quoi m'armer, tout ça y'en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine 9-4 de ma ville, je veux être le prince. Je veux pas te cacher, monsieur le maire est une pince. Des promesses y'a pas à dire, y'en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Et vos monuments à 100 bars, nous on s'en fout. Soi-disant députés en costard, ils s'en foutent. Comme tous citoyens, je suis censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. C'est impossible, quand je vois des frères me noter. Au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté. À la suite, je félicite les gros bonnets l'illicite. Pas d'ingénieurs dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux. Parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux.
C'est quand tu veux.
On vit en HLM les uns sur les autres, et les superposés, j'ai rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage? On vit en marge, en gros on est tous barges. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu payes pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val-de-Marne, pourcentage d'immigration. Aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison. Pour se payer un avocat, pour plein de Pascal. Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais eu de chance, les circonstances fort qu'à pénitence. T'as pas réglé tes amendes, le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été,
des TIG.
Surtout on met la pression. Ta boîte aux lettres est pleine de rappels et d'assignations.
Ouais mec,
ouais mec.
C'est ça notre vie, code 94-400 Vitry. Vitry. Maman lui a ses qualités, ses défauts. Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau. D'escrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux. Gros, tous vitriaux,
tous vitriaux.
Même si c'est pas tous les jours facile, je veux être le prince de ma ville.
On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux. Tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de
Selman Faris.
Le 113 Clan s'invite sur Nova avec cet album qui, à l'aube de l'an 2000, offrait une touche résolument moderne au rap français, notamment grâce aux instrus tournés vers le futur signés de Feu DJ Mehdi et qui vaudront d'ailleurs au crew de la cité Camille Grou une victoire de la musique. Les princes de la ville que l'on retrouve dans les oreilles de celui qui, quelques décennies plus tard, produira lui des instrus pour des rappeurs, notamment ceux de l'entourage. Son nom, Selman Faris, c'est lui qui nous embarque avec lui et ce titre dans la cour d'école de son enfance.
Le premier CD et la première musique que qui m'a marqué en dehors de la maison, à l'école, c'était le rap et surtout 113. 113, c'est un groupe qui m'a vraiment marqué. On chantait, on rappait les textes, on connaissait tous les morceaux par cœur à l'école. Puis il y avait une énergie, un truc. Enfin, je pense que je sais pas si c'est le plus grand groupe de rap, je pense pas, mais pour moi ça a une connotation particulière, 113. Bah, Prince de la Ville, surtout. Morceau Hold Up, par exemple.
Je suis postiché, j'ai les mêmes cheveux que Dalida, la barbe de Fidel Castro et un gros Beretta, la gabardine de Colombo, les lunettes d'Elton John et la dégaine distinguée des frères Dalton. Les lieux sont repérés, 9h devant la banque. Je suis devant le sas, je sonne et je rentre. Je fais la queue comme tout le monde. Mes potes m'attendent de rue plus loin. Je suis opérationnel dans 30 secondes. Quelque vigile, lui qui me regarde bizarre. M'approche vers lui et je lui dis, qu'est-ce que t'as, connard.
Et je pense que je m'en rendais pas compte, mais je pense que c'est la première prod où je me suis dit, mais comment ils ont fait ça? Ça c'est incroyable, c'est grave stylé, etc. Mais c'était encore loin de moi l'idée de me dire que je vais faire pareil que.
Je sors rentrer dans la banque sans faire toc, toc, toc.
Sans très intouchable, dans ta gueule, c'est un old dog.
Mais le plus lointain souvenir de musique, c'était quoi?
Bah, le plus lointain, c'est la musique qu'écoutait mon père dans son studio, qui était chez nous. Il avait son petit studio dans l'appartement. Et c'est des musiques traditionnelles turques, des musiques instrumentales turques. Il s'appelle Kutsi Erguner. et il est spécialisé dans la musique classique turque, notamment la musique ottomane. Voilà, en fait, son métier, c'est autant de jouer que faire de la recherche sur des répertoires oubliés et mettre en avant tout un répertoire qui a été effacé, en fait.
Oui, donc en fait, quand tu parles de chants traditionnels, là, il y avait vraiment différents chants traditionnels turcs que tu pouvais entendre à la maison.
Ouais, c'est ça. Beaucoup de musique instrumentale, surtout. Et puis voilà, comme mes deux parents sont turcs, en fait, voilà, il y avait beaucoup de musique turque à la maison, quoi. Le premier disque que j'ai acheté, c'était Prince de la Ville. Ouais, beaucoup de CD. En fait, pour moi, il n'y avait pas vraiment de style. J'ai un truc qui me plaisait, je l'achetais. J'ai acheté beaucoup de CD de funk, des trucs de Michael Jackson aussi. Il y avait des CD des Beatles aussi que j'avais acheté, que j'aimais bien. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. J'avais une période un peu rock aussi j'essayais de... Ouais, en fait, dès que je sortais de la maison, je découvrais un peu tout. Tout était un peu dans une même boîte, en fait. C'est souvent la vision qu'on a de la musique en France ou en Europe, c'est plein de styles et il y a la musique du monde. Et moi, en fait, c'était l'inverse. Il y a la musique du monde et puis il y a la musique occidentale, quoi. Et donc toute la musique occidentale, ça rentrait un peu. Il n'y avait pas de sous-genre, quoi. C'était tout en même temps. Donc, j'avais pas trop de classement en mode, ah, ça c'est un truc rap, ça c'est un truc rock, etc.
C'était la musique occidentale.
Voilà, c'est ça. Ça peut paraître un peu bizarre que je suis né ici, mais j'ai d'abord grandi comme ça et puis petit à petit, je me suis fait mes catégories moi-même, quoi.
Nova, dans les oreilles de...
Selman Faris.
Mais pour autant, est-ce que tu jouais de la musique, enfant ?
Ouais, alors en fait, très vite, mon père m'a mis au conservatoire. En alto, violon alto. Donc je faisais du ney et puis de l'alto et puis.
Donc c'est-à-dire que tu as appris à jouer le ney, c'est la flûte traditionnelle.
C'est ça, la flûte traditionnelle turque.
Avant de jouer de l'alto ?
Avant de jouer de l'alto, ouais, c'est mon tout premier instrument, le ney. Et puis même, en vrai, quand j'étais petit, par exemple, avec mon père, on jouait, moi je chantais. Et lui, il jouait du day, il m'accompagnait. Je jouais du bendir, c'est une petite percussion. Voilà, c'est mes tout premiers souvenirs, c'est ça. Après, le ney. Et puis, en fait, petit à petit, en grandissant, il y a eu l'alto, après la guitare. Et en fait, petit à petit, je me suis un peu éloigné. J'ai voulu faire un peu mon propre truc, quoi. Mes propres instruments. Chercher mes propres instruments qui me parlaient aussi. C'est l'alto dans un deuxième temps après le ney et la guitare après, quoi.
Côté au conservatoire et que tu apprends l'alto, quels ont été peut-être les premiers airs que tu as pris vraiment plaisir à reproduire ou que tu as découvert en classique qui t'ont parlé ?
Je me rappelle par exemple de Bartok. Et des danses roumaines Et en fait, c'était la première fois où je voyais un compositeur qui essayait de mélanger à la fois ses origines avec une musique qui a ses propres codes, quoi. Et je trouvais ça intéressant. En fait, je me rendais pas compte à l'époque que ça m'intéressait pour ça, mais je pense que tout au fil de ma carrière, j'ai souvent été intéressé par des artistes qui justement essaient de mélanger.
De créer des ponts.
Voilà, de créer des ponts, ouais. Et donc, il y a eu Bartók, c'était le tout premier en musique classique. Mais par exemple, après, il y a eu un guitariste qui s'appelle Nguyen Lee, qui d'ailleurs a travaillé avec mon père. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et c'est un guitariste vietnamien. Et pareil, en fait, il essaie de reproduire un peu des musiques vietnamiennes tout en les mélangeant à des codes jazz. Et bon, ça, c'est un peu plus tard, mais je trouvais ça super intéressant, quoi.
Et les premières expériences live, les premiers concerts auxquels tu as assisté, c'est les concerts de ton père ou c'est...
Ouais, bah en fait, moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager comme ça avec lui. En fait, il nous emmenait à ses concerts et puis comme il voyageait partout dans le monde, j'allais avec lui en tournée avec plein de musiciens et tout. Donc c'était ouais, c'est des super super souvenirs et super expériences. Ouais.
Donc ça, c'est les premières expériences émotions en live. Est-ce que sur toute la somme de concerts que tu as pu voir dans ta vie, il y a une expérience que tu aimerais partager avec nous ?
C'était un concert de mon père à Istanbul, dans l'église Saint-Irène. C'est celui-là. C'est vraiment mon concert préféré. Ouais. C'était un mélange de musique indienne et de musique turque pour un projet qui s'appelle Taj Mahal, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ouais, l'ambiance, la résonance de la salle, l'écho naturel de l'église, etc. Enfin voilà, c'était vraiment impressionnant, quoi. Le disque qui me suit depuis le plus longtemps, c'est Islam Blues. C'est un album de mon père. Je sais, c'est pas très original, mais c'est l'artiste qui me sert de plus de référence, en fait. Y en a d'autres, mais dans la façon d'appréhender la musique de façon vraiment très sérieuse, etc., et de respecter les codes de chaque culture et de pas faire ça en mode par exemple s'il fait un projet avec une musique indienne, pas prendre quelqu'un qui va jouer de la musique indienne et puis voilà, de manière légère, mais vraiment rechercher ce qu'il fait dans le répertoire, le lien commun avec ce qu'il fait lui, etc. Donc voilà, dans toutes ces choses là même si moi je fais autre chose, ça m'a vraiment marqué dans ma façon de faire la musique.
Et ce disque-là, en l'occurrence, c'est...
Alors, c'est un album qui mélange musique turque, traditionnelle turque et jazz. Et dans l'énergie, y a quelque chose qui est vraiment, vraiment spécial, quoi.
Thank you.
Dans les oreilles. Dans les oreilles de...
Salman Faris.
Comme il a appris à marcher, il a appris à maîtriser la flûte ney, les bendis, l'alto ou encore la guitare. Replonger dans les souvenirs de musique de Salman Faris, notre invité ce matin, nous permet d'explorer et de s'immerger dans l'œuvre de son père, grand musicien turc Kudsi Ergüner, par ailleurs musicologue dont vous entendiez à l'instant le magnifique morceau méditerranéen, extrait d'Islam Blue. Salman Faris a sorti, lui, son premier EP solo, il s'appelle Neva, on en parle dans un instant, juste après une escale à Los Angeles où il a étudié.
Dans les oreilles de...
Salman Faris.
Il y a des morceaux qui nous traversent comme on traverse des paysages. Ce Peaches M. Regalia en fait partie. Plaisir d'écouter à nouveau ce morceau signé Frank Zappa, extrait du deuxième album du musicien sorti en 1969, chef-d'œuvre de jazz fusion qui se niche dans les oreilles de notre invité ce matin. Lui, il est à la fois producteur, musicien et compositeur. Il s'appelle Salman Faris et se raconte avec nous en musique pendant une heure. Alors avant d'écouter son premier mini-album, Neva, retour sur les musiques qui ont accompagné ses débuts à la composition.
Faire des compositions, ça m'est pas venu tout de suite en fait. Je pense que ça m'est venu au moment où j'ai commencé la guitare. Et puis d'abord en reproduisant, et puis j'avais une petite pédale loop qui me permet d'enregistrer, de jouer moi-même en fait. Par exemple d'enregistrer une boucle de guitare et puis de rejouer par-dessus, etc. Et je pense que les toute première composition, même s'il n'y avait rien d'écrit en partition, c'était ça. Et puis.
Et que tu dis que tu reproduisais quoi ?
J'ai essayé d'apprendre Jimi Hendrix, par exemple, Frank Zappa aussi, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Par exemple, il y avait un morceau qui s'appelle Peaches and Regalia, un morceau instrumental qui est un peu fou, où il y a plein de. Enfin, il se passe plein de choses, etc. Et je me disais, putain, c'est super ça. y a plein d'instruments, plein de trucs. Et je pense que c'est un morceau qui m'est resté encore dans l'EP. Je pense qu'il y a des morceaux où on peut retrouver un peu ce côté-là, quoi. Et ouais, après, d'autres guitaristes... il y avait Pink Floyd aussi, où j'aimais bien le côté...
Planant.
Et puis surtout, il y avait les cocottes, les guitares cocottes, en fait, les guitares funk. Ça, c'était vraiment mon truc, quoi. J'aimais trop ça. Et donc, du coup, je reproduisais, par exemple, tous les riffs qu'il pouvait y avoir dans les morceaux, par exemple, de Chic, Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire, etc., Michael Jackson. Ça, c'était quand j'étais à Paris. Et je suis parti à Los Angeles, en fait, vers 2013. Je me dirigeais plus trop vers une carrière de musicien. J'étais en études d'histoire. Et j'étais un peu, voilà, pas un peu perdu, mais bon, je me disais que j'avais quand même envie de faire de la musique et puis chanter, que j'avais besoin de partir, en fait. Que là, à Paris, ça devenait un peu trop étouffant pour moi.
Et à cette époque, t'as déjà des formations en France et tout ça, en 2013 ?
J'avais un groupe avec des potes, on faisait des petits concerts, mais j'avais pas de formation, enfin, je jouais pas en formation.
Et tu produisais pas de musique ?
Et je produisais pas de musique, juste je jouais pour moi-même. Et puis je jouais occasionnellement avec mon père, en concert en tant que guitariste ou au ney ou bien à l'alto, ça dépendait de ce dont il avait besoin, quoi. Et ouais, donc justement j'avais besoin de partir pour pouvoir trouver un peu ce que moi je voulais faire, quoi. Donc je pense que ma carrière solo, elle a vraiment démarré quand je suis parti à Los Angeles.
Et quelle musique t'associes à ce départ, enfin à ce départ ou plutôt à cette période?
Qu'est-ce que t'avais dans les oreilles? Beaucoup de musique du monde. Beaucoup de soukous, par exemple, guitare soukous, parce que ça, c'était un truc que j'ai découvert juste avant de partir aux États-Unis. Et ouais, le seben, la rumba congolaise, etc., tout ça, ça m'a vraiment marqué. À cette époque-là, j'étais vraiment dans une mentalité de guitariste. Donc, j'écoutais vraiment la musique à travers la guitare. Et donc, du coup, j'essayais de reproduire tous les riffs que j'entendais, que j'écoutais. Il y avait des trucs de Tabula Rochereau, il y avait de Salif Keita. Manju, par exemple, ça, c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté, que j'aime beaucoup. Ça, par exemple, c'est un concert que j'avais vu au Festival Saint-Denis. Et ça, c'est pareil, un des meilleurs concerts que j'ai vus. Salif Keita à Saint-Denis, c'était incroyable. Et puis, en plus, j'étais stagiaire à cette époque-là sur le festival. Je vois arriver avec tous ces musiciens, super vibe. Et là, hyper calme, hyper chill, etc. Ils arrivent sur scène et ils commencent à faire Manju. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment un morceau incroyable, quoi. L'énergie, la rythmique. Et ouais, de là, en fait, ça m'a amené à Fela Kuti, à l'afrobeat, etc. Et pendant vraiment un moment, j'étais hyper fasciné par les rythmiques. Et ouais, donc ça m'a amené aussi à la musique indienne, aux rythmiques de la musique indienne qui sont hyper complexes. Ouais, à la bossa, avec Jobim, enfin après, voilà, au jazz.
Dans les oreilles de...
Salman Faris.
En fait, là, dans ces trois ans-là, j'avais des formations, pour le coup, à Los Angeles, où c'était les tout débuts où je mélangeais jazz et musique turque, en fait. On était 4-5 musiciens, et je composais, et on reprenait aussi des répertoires classiques. J'écoutais aussi beaucoup Herbie Hancock. Je pense qu'Herbie Hancock, c'est vraiment l'artiste qui me sert de plus de référence, en fait, en termes de carrière. dans le sens où c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses et qui est passé, par exemple, du jazz classique à la funk, à presque à des sons hip-hop dans les années 80. Et voilà, je trouve que c'est génial de...
La longévité, la diversité.
La diversité et la longévité, ouais, je trouve ça incroyable. Quincy Jones, par exemple, c'est pareil. Ouais, un album de Herbie qui s'appelle Trust. Dedans, il y a des morceaux où... Enfin, la façon dont il compose ses morceaux... En fait, c'est même pas qu'il compose, c'est qu'il laisse une énergie sur le moment et il suit vraiment cette énergie-là. Et l'énergie qui se crée à ce moment-là, on la ressent tout le temps. Et ouais, moi, ça, je trouve ça vraiment fort. Et je pense que plus le temps passe et plus j'essaie de vraiment revenir à ce genre de choses, quoi. Qu'on sente une énergie sincère, une émotion forte, qu'on sente l'énergie du moment dans un disque, ça, je trouve ça très, très fort, quoi.
Et alors, quand est-ce que tu commences à produire pour les autres ?
Alors, en fait, c'est quand je rentre à Paris. En fait, je me rends compte que j'ai passé 3 ans à un peu aller hyper loin dans des musiques un peu nichées parfois. Et petit à petit, en fait, quand j'étais là-bas, je commençais aussi à jouer avec des chanteurs qui faisaient de la funk, du rap, etc. Et ça me plaisait bien. Et puis, je me disais, voilà, ça me fait revenir un peu à ce que je faisais, enfin, à ce que j'écoutais au tout début, et puis en rentrant en France, je me suis dit que j'avais envie de bosser avec des rappeurs. Alors au début, je me disais que je voulais faire ça en tant que guitariste, quoi, en tant que musicien, sur scène, et puis j'ai rencontré Hologramlo, qui est un producteur, et qui produit pour Alpha One, Nekfeu, entre autres, voilà. Et du coup, il y a un peu un quiproquo, en fait, lui, il pensait que moi, je voulais apprendre à faire des prods. Et alors que moi, je voulais juste proposer mes services en tant que guitariste, quoi. Et puis, on a commencé à traîner ensemble, je le voyais faire prod, et en fait, je me suis dit, mais c'est trop bien, quoi. C'est trop bien, et puis je savais pas qu'on pouvait vraiment... qu'on pouvait faire ça avec l'ordinateur. Enfin, j'avais jamais pensé à toutes les options que ça pouvait créer. Et puis petit à petit, j'ai été mordu, quoi. En fait, j'étais piqué. Et j'ai découvert plein d'artistes que je connaissais pas trop, quoi. Par exemple, il y a 3010, qui est un artiste qui, en vrai, pour l'EP que j'ai fait, qui m'a vachement influencé, quoi, dans sa façon de faire de la musique, où il fait tout lui-même aussi. Ses prods, son texte, c'est un peu chanté, etc. Et l'énergie qui se dégage de ses morceaux. C'était un peu une référence, mais je voulais même bosser avec lui pour l'EP. Je voulais qu'il, par exemple, il puisse écrire des textes et moi j'ai traduit en turc. Après, bon, je me suis dit, bon, je vais faire moi-même les textes. C'était un peu compliqué.
Avec mes gars et faire du blé sur leur messe basse. J'aime ça, je ne sais pas tout mais je sais ça. Arriver en force avec mes gars et faire du blé sur leur messe basse. J'aime ça, je ne sais pas tout mais je sais déjà. Me regarde, je ne suis pas là. Disponibilité ailleurs. J'y vais grave, je le fais gaffe. Elle me parle certains devoirs. Elle le sait, mais je suis déjà au-dessus de ses négats. Hey, j'aime ça. Je sais
pas tout, mais je sais ça. Arriver en force avec mes gars et faire du blé sur leur messe basse. Messe basse, j'aime ça. J'sais pas tout, mais je sais ça. Arriver en force avec mes gars, faire du blé sur leur messe basse.
Dans les oreilles de
Selman Faris.
Le rappeur 3010 sur Radio Nova, j'aime ça. Et notre invité Selman Faris aime tout dans ce morceau. Le flow, le chant, la prod, au point qu'il souhaitait intégrer 3010 dans la création de son mini-album Neva, dont on entend depuis quelques semaines le morceau Ina. Retour sur les débuts de ce mini-album avant de découvrir ce qui tourne sur sa platine actuellement.
Cet EP-là, à la base, c'était un EP instrumental. Et donc, du coup, j'ai tout fait dans ma chambre, quoi. En fait, ça faisait des années que je cherchais une manière, de dans mon son, de mélanger un peu les influences que j'avais, mais sans que ce soit, trop forcé, quoi. Que ce soit vraiment quelque chose de naturel. Donc, du coup, j'ai commencé à faire de la musique, chercher. Donc, je prenais des boucles de batterie, je faisais des boucles de batterie. Et puis, par-dessus, je commençais à composer des mélodies, chercher des mélodies, des sons, etc. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à mettre de la voix. Et puis, en fait, c'est devenu encore autre chose. Et puis, voilà, je me suis arrêté sur une direction qui me paraissait cohérente, quoi. Et généralement, la manière dont je compose, c'est soit je trouve une mélodie, soit je trouve une boucle de batterie que j'aime bien et je construis quelque chose par-dessus.
Neva, ça veut dire quoi?
Alors Neva, c'est à la fois le nom d'un makam, c'est-à-dire un makam, c'est la musique modale turque en fait. Donc c'est comme si je disais une gamme majeure ou une gamme mineure, quoi. Et en même temps, ça veut dire son. En ancien turc, et je trouvais le nom joli aussi.
Qu'est-ce que tu avais dans les oreilles justement au moment où tu as commencé à composer? Qu'est-ce que tu écoutais à ce moment-là? Ou peut-être tu écoutais rien?
Ouais, non, si. J'étais tombé par hasard sur Altin Gun et Krongbin et tout, et je me disais, mais attends, ils font vraiment leur truc, c'est naturel, le son est bien, ils reprennent des mélodies à l'ancienne, enfin pour Altin Gun surtout. faut que je fasse mon truc quoi aussi. Et donc je suis parti un peu de ça. Au début je trouve que ça ressemblait un peu trop à ces influences là. Mais plus le temps passait, plus je faisais mon truc et plus ça. Enfin, je m'en suis éloigné, mais ouais, ça m'a servi un peu de tremplin quoi. Et il y avait aussi un batteur turc qui s'appelle Okay Temiz, qui est, je pense, peut-être le premier ou l'un des premiers à avoir cherché à faire un pont entre la musique turque et le jazz ou la musique africaine. Il y a des albums qui sont sortis dans les années 70-80.
Ça, t'écoutais ça aussi?
Ouais, ça, j'écoutais ça aussi. Enfin, j'aime trop, quoi. C'est, l'énergie, elle est forte. Alors après, c'est plus free jazz, mais parfois, il y a des morceaux un peu plus maîtrisés en termes de mélodie. Et ouais, ça m'a un peu servi. C'était une référence. Ouais.
Nova.
Dans les oreilles de...
Selman Faris.
Comment t'aimes m'écouter la musique? Dans quelles conditions?
En faisant des trucs chez moi, c'est-à-dire cuisine, ou bien beaucoup au studio, avec les gars avec qui je fais du son. Ça, c'est vraiment top. Et puis, le meilleur truc, je pense, c'est dans la voiture. Moi, c'est celui-là, je l'ai un peu pensé. Je l'ai toujours imaginé comme si j'étais sur la côte, en Turquie, en me baladant pas trop vite, en roulant pas trop vite, pour profiter bien du paysage. Et ouais, je pense que c'est les meilleurs souvenirs, c'est en voiture.
Et en ce moment, t'écoutes quoi?
Beaucoup d'électro. Alors souvent, je mets en playlist. Bah là, il y a un artiste que j'ai découvert récemment que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Moritz. Je sais pas s'il est très connu ou quoi, mais vraiment c'est super ce qu'il fait. J'écoute aussi beaucoup de jazz en ce moment. Là, je réécoute Hamza aussi beaucoup. Bah, y a un son qui s'appelle Eni Menoi. Je trouve ouais, pareil, une super vibe dans ce morceau là, c'est sur Paradise. Il y a un son d'Alpha One qui s'appelle 99 en puff, qui est sorti récemment. Il se trouve que c'est un super morceau. Enfin, qui est un morceau qui, je sais, existe depuis un moment, qui a été fait un moment, mais là, il est sorti là et ouais, j'aime beaucoup ce morceau.
Monsieur Linge au prix inadmissible. La fusillade, les balles qui sifflent, langage crypté, float 96. Enfant, je lisais Picsou parce qu'il nage dans le cash. Explorer le monde en vélo, je suivais le marchand de glace. Je ne peux plus suivre, juste diriger. Tu le sais, je suis un ancien comme Jimmy J. La montagne de l'excellence, je l'escalade vite. J'écris dans une grotte de glace, je fais fondre les stalactites. Respecté à la Max B, je fais tomber les masques vite. Non, mon négro, j'écoute pas les rumeurs ou les askip. Je suis là pour les racks, je suis là pour les stacks. Il faut que je bombarde comme Sammy Nasseri dans taxi. Qu'il étudie en face, qui ouais, c'est sûrement fal. Un vrai négro à l'ancienne, je reçois des nudes sur mon fax.
Qu'est-ce que j'aime dedans? Ben, la vibe. Ben lui, comment il rappe, enfin, c'est hyper fort quoi. Et en même temps, la prod, elle a vraiment un truc élégant, un peu classique. Ouais, c'est vraiment top.
Est-ce qu'il y a des musiciens qui t'ont surpris, une scène musicale qui t'a surpris récemment, dans le bon sens hein.
Une scène musicale qui m'a
surpris. Oui, ou des artistes.
Bah franchement, moi je trouve que j'ai la chance de bosser avec un collectif d'artistes là. Qui fait des choses incroyables quoi. Enfin, entre Alpha One, Nekfeu, Infinite, 3010, KSA, Jazzy Bass, Dinder Bigo, il y a tellement de gens qui font des trucs qui font leur propre musique et puis on se voit quasiment, peut-être pas quotidiennement, mais voilà, au moins une fois par semaine, on se croise, quoi.
C'est ton entourage.
Voilà, c'est ça, c'est mon entourage, exactement. Et c'est hyper inspirant. Et je trouve que là, c'est l'une des scènes les plus fortes.
Enfin, en tout cas, quoi.
Actuellement, ouais, parce que ils sont toujours dans l'innovation entre guillemets, vouloir se dépasser. Moi, en fait, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'albums se faire dans différents styles, mais je trouve que l'exigence la plus forte que j'ai vue, c'était dans ce cadre-là, quoi. Par rapport au fait de quand on fait un album, il faut donner vraiment le meilleur de soi-même, se dépasser. Être hyper exigeant et voilà, j'ai essayé de suivre à peu près cette recette-là entre guillemets. C'est Thundercat, c'est un artiste que je suis depuis un moment et à la base c'est un bassiste qui a commencé à composer, chanter, etc. Donc voilà, tout ça c'est une évolution de carrière, quoi. Et en même temps il est musicalement, je trouve c'est hyper innovant, c'est très complexe aussi. Y a toujours un travail sur le son. Ça groove bien, j'aime beaucoup, quoi. Et voilà, je ne sais pas s'ils l'ont découvert avec moi, mais moi j'écoute beaucoup ça et maintenant ils écoutent aussi beaucoup. Et donc ça, je suis content de ça.
Dernière question, c'est quoi la musique pour toi? Qu'est-ce que ça représente?
Déjà, en fait, c'est un besoin. Enfin, j'ai toujours senti le besoin d'en faire. C'est quelque chose qui représente le partage pour moi. Une façon de communiquer, partager une culture, communiquer avec des gens, même si on ne parle pas la même langue, etc. Puis je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui touche... presque métaphysique, j'ai envie de dire, quoi. Quelque chose de fort qui, dans les fréquences, etc., qui touche le corps, quoi. Je trouve que c'est la forme artistique la plus, en vrai, la plus abstraite. Et voilà, c'est pour ça aussi que là, j'ai pas trop fait de... peut-être que j'en ferai, mais là, pour l'instant, il n'y a pas de clip pour cet album-là. Parce que j'aime bien l'imagination, en fait. Et je trouve que voilà, c'est important de garder de l'imagination. Et de garder l'abstraction, voilà, exactement.
Pendant une heure, il nous a calé sur son tempo une émission pour faire connaissance avec Selman Faris, auteur de l'excellent Neva, mini-album réjouissant de Selman, dont on vous joue ce titre, Ina, depuis quelques semaines, et qui, par la variété de ses goûts, vous aura donné, je l'espère, envie d'agrandir votre discothèque. Merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission qui, je vous le rappelle, est disponible en podcast et en version augmentée. Quant à moi, je vous retrouve comme chaque samedi de l'autre côté, côté Grand Mix.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles 2 et sa playlist sur nova.fr.